banques qui se mettent en arrêt maladie pour pouvoir travailler comme VTC et arrondir leur fin de mois. Alors ça pose aussi une question de sécurité, parce qu'un chauffeur de bus, par exemple, passe 7 heures par jour au volant. Et si en plus il fait dans la foulée VTC, il y aura quand même un problème de fatigue au volant. Donc il y a même il y a eu récemment d'ailleurs un chauffeur qui s'est endormi au volant. Il était peut-être lui-même chauffeur VTC ensuite la nuit. Donc là, ça pose aussi des questions de sécurité. Mais alors visiblement, c'est pas qu'à la RATP, à la SNCF, et même dans les grandes entreprises, il y a un fidèle DGG qui témoigne que dans son entreprise, un jour, son manager commande des sushis sur Uber, et qui vient lui livrer ses sushis. C'est sa salariée qui était en arrêt maladie.
C'est ballot.
Donc visiblement, même dans les grandes entreprises, on peut se mettre en arrêt maladie. On touche entre 75 et 80% de son salaire. Et si on travaille au black, etc., bah effectivement, c'est une bonne opération.
C'est totalement illégal. Non, mais je pense qu'il faut faire la distinction. Par exemple, moi, je suis très, très mal placé pour donner des leçons. Ah, par contre, j'ai jamais été en arrêt maladie. D'ailleurs, j'ai jamais été une fois en arrêt maladie toute ma carrière. Mais moi, j'ai toujours travaillé.
À côté,
toujours. Sinon, j'aurais pas pu vivre.
Est-ce que ça nuit à ton travail professionnel?
Ça n'a pas nuit, mais ça m'est arrivé, par exemple, de prendre des congés. À un moment, j'ai fait du carrelage, j'ai fait beaucoup de carrelage quand j'étais jeune. J'étais carreleur. Et donc, j'ai fait beaucoup de carrelage. Tous les week-ends, pratiquement, je faisais du carrelage. J'ai fait beaucoup de déménagement. J'ai fait beaucoup de musique, bien sûr. J'ai des tas de choses. Et j'ai fait beaucoup d'affaires le soir en musique, etc. Parallèlement au boulot. Mais j'ai jamais pris un jour de congé.
C'est pas sur les arrêts maladie.
C'est pour ça que je distingue. Sur l'arrêt maladie, je ne sais même pas comment c'est envisageable, parce que c'est même très dangereux, parce que quand tu es en arrêt maladie, il y a des contrôles, il y a tout ça, si tu travailles à côté, et si tu es salarié, si tu le fais au noir, c'est possible, mais si tu es salarié ailleurs ou que tu touches quelque chose que tu déclares, je ne vois pas comment c'est jouable.
Parce que visiblement, quand tu es en arrêt de maladie, ça pose des problèmes au service, au fonctionnement du service.
Bien sûr.
Même si c'est 30 mecs sur des milliers.
Mais
déontologiquement, c'est honteux.
C'est honteux.
Là, comme la police ailleurs, et comme tu dis exactement, moi, quand j'étais au RAID, l'été, quand j'étais en vacances, je partais faire un ménageur sur une piscine.
Non, mais c'est autre chose.
Mais ça reste dans la légalité.
En plus de ton boulot, t'as le droit de le faire.
D'accord. Mais les 30 mecs, il faut les virer rapidement.
Alors, justement, très rapidement. Les 30 personnes, ce que la RATP devrait faire, si on peut se permettre de donner un petit conseil à M. Castex, ceux-là, non seulement ils doivent rembourser.
À partir d'aujourd'hui.
Voilà. Tu les vires.
Ils doivent. Premièrement, rembourser toutes les indemnités journalières qu'ils ont touchées.
Oui.
Deuxièmement, virer pour faute grave, pas de chômage. D'accord ?
Donc tu repars à zéro. Très protégé,
non, je m'en fous, il n'y a pas.
C'est faute grave.
Tu perds ton statut, rien du tout. Et poursuite du médecin qui fait des arrêts maladie de complaisance, sauf si le gars a simulé. Tu peux très bien simuler une lombalgie ou je ne sais pas quoi. Bon, tu peux duper. Ceci étant, si tu remarques que c'est un médecin qui a la feuille de soins facile avec les gars de la RATP, tu comprends que c'est un mec qui a. Donc s'il n'y a pas de sanctions extrêmement dures, tu vas laisser. Penser aux autres agents de la RATP que c'est possible. Donc encore une fois, sanctions très sévères et remboursement à la CPAM des indemnités journalières.
Parce que à partir du moment où des policiers de façon légale, tout à fait, ils ont fait tous des arrêts maladie avec des médecins pourris qui le refait.
Non mais je continue.
Pourquoi tu prends les policiers?
C'est un mouvement social.
Alors il se trouve et n'empêche qu'il y a eu des médecins qui ont fait des faux arrêts maladie à des centaines de policiers.
C'était un mouvement social,
c'était pas pour faire VTC.
Et donc les médecins, ils ont accepté de faire des faux arrêts maladie à des policiers.
C'était pour un mouvement social.
T'es hors sujet, t'es totalement hors sujet.
Alors c'est vrai qu'en même temps, c'est les médecins qui ont fait des
faux.
Même si pour une bonne cause.
Oui, mais toutes les occasions sont bonnes. Pour éteindre les pour taper sur les filles.
Mais pas du tout, je dis juste. Mais reconnais quand même que c'est scandaleux.
Reconnais que t'as un peu mauvaise foi parce que c'est pas du tout
hors sujet.
Reconnaissez que c'est absolument dingue de trouver des médecins par centaines
qui ont fait des arrêts maladie à des policiers, mais là c'était pour une bonne cause.
Tu dénigres les policiers.
C'est soutenir des tricheurs, c'est pour voler la sécurité sociale
et pour faire VTC.
On dit que c'est dégueulasse que des médecins ils fassent des faux arrêts maladie. Stop.
Alors on va.
Tu vois déjà tu changes.
C'est dégueulasse pour tout le monde, y compris pour les policiers.
On va passer par le 3216. Écoutez Lies qui est avec nous.
C'est indépendable.
Qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Lies.
Bonjour tout le monde.
Lies, vous étiez au courant de ce genre de pratique alors ?
Mais bien sûr, mais ça existe depuis très longtemps. En fait, les gens de la RATP, ils font la une fois qu'ils payent, en fait, ils font un dossier de avec leurs 12 fiches de paye et ils ont droit à la carte VTC.
Ça, pourquoi pas?
Ça fait
mais est-ce qu'ils font ça
quel
en plus de leur travail? Ça veut dire qu'en même temps, ils ne travaillent pas beaucoup. Parce que si tu as le temps d'être VTC en plus d'être chauffeur de bus, peut-être qu'il faudrait revoir aussi le temps de travail des chauffeurs RATP, sachant qu'on en manque. Et qu'on en manque et qu'il y a des lignes de bus qui sont affectées par cela. Donc, déjà, ça pose la question de savoir est-ce que ces salariés RATP travaillent assez. Et deuxièmement, est-ce que c'est légal ou est-ce qu'ils se mettent en arrêt maladie pour travailler?
Ils se mettent en arrêt maladie pour travailler, mais nous, on n'a plus de boulot. Et je vais même aller plus loin.
Ils prennent le boulot, quoi.
Est-ce que moi, demain, je peux aller conduire un bus?
Et voilà.
Non. Ben non.
Ben non, j'ai passé une formation. J'ai passé. Eux, ils l'ont fait par équivalence. Comme ils ont. Ils sont chauffeurs de bus, ils donnent 12 fiches de paye pour obtenir la carte VTC. Mais c'est. Mais
voilà. Et voilà l'ubérisation.
Donc c'est injuste. Mais attendez, Elias.
Alors que si on était dans le cadre d'une métier réglementée comme les taxis, les gars, ils pourraient pas venir faire taxi. Alors que l'ubérisation permet ce genre de vacances.
C'est la malhonnêteté parce qu'ils peuvent le faire, Barbara. Ils peuvent le faire si ça ne nuit pas au travail et si c'est pas.
Attendez. Parce que Elias, vous, ce que vous dites, c'est que ça a l'air d'être une pratique qui est connue de tout le monde. Voilà.
Mais de tout le monde, mais bien sûr. Et ça ne fait pas un an ou deux, ça fait depuis très longtemps.
Mmh. Et vous en discutez avec eux
Bien sûr, des fois on boit le café avec et ils nous disent, là je ne travaille pas, je vais faire chauffeur de bus, je suis arrêté.
Ils vous disent, je suis arrêté.
Ah bah bien sûr, il y en a plein qui le disent.
D'accord, donc ça veut dire que dans ces cas-là, c'est des arrêts maladie de complaisance pour faire des compléments de salaire, on est d'accord, c'est ce qu'ils vous disent.
Mais bien sûr, mais tous.
C'est scandaleux.
Mais parce qu'il n'y a pas assez de contrôle. Enfin, pardon.
Oui, t'as raison.
Ça ne doit pas être que dans la RATP.
Mais les arrêts de complaisance, les arrêts maladie de complaisance, il y en a partout. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de contrôle. On ne peut pas contrôler tous les gens qui sont en arrêt maladie.
Normalement,
un médecin, il fait un exemple.
Allez-y,
je vais vous donner un exemple. Un chauffeur de bus qui fait VTC, qui est en arrêt. Il se fait contrôler par la police des taxis et des VTC. Mais qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que la police sait qu'il est en arrêt maladie?
Oui, bien sûr.
Mais s'il y a un accident, par contre, attention. Ah,
là, c'est autre chose.
Ah oui, c'est pas la même chose.
Mais voilà.
Le médecin, il se fait duper, le médecin. Tu vas voir ton médecin, tu dis, écoutez, en ce moment, j'ai des envies suicidaires. Je me lève le matin, j'ai envie de me foutre en l'air, j'en peux plus à mon boulot. Je suis harcelé par mon manager. Bah, le médecin, il prend pas de risque, il te met en arrêt maladie.
Il donne du Tranxène, il te met pas en arrêt maladie.
Le nombre de jours où j'ai une migraine, si je peux.
Allez-y.
Mais franchement, vous avez vu ça où? C'est comme si demain, je vais prendre un bus et je vais conduire un bus.
Non, mais je suis d'accord avec vous.
C'est pas normal.
C'est scandaleux.
Mais c'est scandaleux.
Surtout que ça vous pique votre boulot. Il y a des médecins, c'est des médecins véreux.
Surtout qu'à RATP, ils ont encore une fois un statut particulier. Ils sont pas le statut des gens qui conduisent les VTC. Ils partent à la retraite plus tôt. Ils sont quand même relativement mieux payés que les chauffeurs VTC. Il y a un truc injuste.
La preuve que non. Ils sont obligés de faire VTC pour pouvoir arrondir leur fin de mois.
On aimerait bien
qu'ils ne sont pas assez payés à la RATP.
Oui, bien sûr.
Il faut mieux payer à la RATP.
Excusez-moi de vous dire, c'est pas dans le VTC.
Disons, inversons. Faisons de ces chauffeurs à RATP des chauffeurs VTC à temps plein. On verra si c'est leur.
Alors attendez, Lies.
C'est ce qu'ils vont vouloir faire d'ailleurs, les 30 ans.
Ouais, Lies.
Jamais ils feront ça.
Lies, restez avec les GG. Parce que nous avons Philippe qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors Philippe, chauffeur de bus RATP.
Retraité maintenant.
Retraité, alors
45 ans.
Les 54.
Ah oui,
54
c'est
ans.
Pas la police.
Vous êtes à la retraite à 54 ans.
Ben moi, quand je suis rentré à la RATP en 95, j'avais signé pour 20 ans de carrière.
C'est ça.
Enfin, 25 ans, pardon. 25 ans de carrière. Donc, à 50 ans, je pouvais partir avec un taux quasiment plein. Grâce à nos chers présidents, M. Nicolas Sarkozy en premier et puis M. Hollande en deuxième, on nous a rajouté 2 ans et on a perdu 600 euros sur la retraite.
Ah, quand même.
Mais bon, c'est pas le sujet de la conversation, c'est le sujet du travail déguisé, supplémentaire fait par les agents RATP, notamment les chauffeurs de bus. Moi, je suis rentré en 95, donc.
Oui.
Et au bout de la 3e semaine, alors avant, on avait des petits calepins dans lesquels on mettait nos horaires de travail. Et en fait, les machinistes, ils regardaient longtemps à l'avance. Et d'un seul coup, j'entends un vieux machiniste qui dit « Oh là, cette semaine-là, je serai malade. » Ah bon ? Pourquoi ? Bah, je suis en service en deux fois et moi, les deux fois, j'aime pas. Ah. Voilà. Bon, d'accord. Et tu connais un médecin qui va... Oui, 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 t'inquiète, j'ai mon médecin de famille, là.
Ben oui.
Il va m'arrêter. Et puis, une heure après, je le revois dans la cour du dépôt. Et alors, à l'époque, on avait des cabines téléphoniques, hein, il n'y avait pas encore de portable. Et il appelait une personne. Il disait, dis donc, dans un mois, là, je suis en maladie. Tu veux que je te fasse ta dalle?
Ben, comme Étienne Lébig, interrogeage.
Allez-y, voilà. Mais là, il était en arrêt maladie, là.
Ouais, il était en arrêt maladie à ce moment-là. Arrêt maladie 2 convoitise.
En fait, tout le monde profite du système.
Ben, bien sûr.
Voilà. Et après, on se dit, tiens, c'est marrant, ce système est en déficit.
Mais Olivier, ce que
alors,
tu disais,
c'est juste du contrôle.
Attendez, allez-y, finissez votre histoire, Philippe.
Ben, par contre, ce qui m'étonne, c'est que ça soit des chauffeurs de bus pris à faire des VTC. Parce que honnêtement, entre taxi, VTC et chauffeurs de bus, à Paris, c'est plutôt la guéguerre. Dès que vous rentrez à la RATP, vous entendez les vieux qui vont bientôt être à la retraite dire dès que je peux me faire un taxi, je me le fais. Le prochain que je vois rentrer dans le couloir de bus, je me le fais. Parce que comme on utilise le même espace de travail,
oui, bien sûr,
forcément, il y a la guéguerre.
C'est vrai, Liès, c'est la guerre.
Ouais, avant, c'est au tout début, quand le VTC est arrivé, c'était vraiment la guerre. Maintenant, des fois, quand on prend
la voiture... Les VTC n'ont pas le droit de prendre les taxis de bus.
Ouais. Bah, ça m'arrive, quand c'est vraiment bouché, j'en peux plus.
Je comprends, ouais.
Après, certains taxis vous regardent, mais je lui dis, t'es pas policier, t'es pas... Voilà. Mais vous voyez, vous venez la semaine, on est des gnous. Chacun, on est garé, on se regarde en... Voilà, chacun.
J'aime bien.
C'est garé en troupeau et tout le monde se regarde. Quoi.
C'est un plus à Barbara, ça.
J'aime bien la France.
C'est joli, des gnous.
Merci, Liès. Philippe, et vous pensez que la pratique, elle est encore très répandue ou pas, là?
Alors, la pratique est encore très répandue, et elle est répandue même sans être en arrêt maladie. J'avais un collègue notamment qui faisait que des petites nuits. Alors, c'est-à-dire il commençait à 15h, 16h et terminait entre 22h et 23h. Ah oui. Et après, il enquillait direct, il prenait un poids lourd, un semi-remorque, et il allait faire une livraison à Perpète et Trifouillis. Il reconduisait 7 ou 8 heures et il rentrait en train le lendemain.
J'ai connu ça.
Complètement fou.
Mon cher Philippe, je vous remercie, vous nous avez régalé.
Je vous en prie.
Merci.
Déjà, vous me régalez tous les matins depuis de très nombreuses années et j'ai été heureux de passer aux grandes gueules.
Eh bien, c'était la régalade mutuelle.
Voilà, la régalade mutuelle.
Merci avec votre anecdote. Et profitez bien de cette retraite parce qu'elle va durer au moins 40 ans, là, partie comme c'est parti.
Enfin, Philippe.
Ouais. Que monsieur Castex vous entende.
Merci, Philippe, d'avoir été dans les GG. Je salue Liès. Et on salue à la fois les VTC et les taxis parce qu'on discute souvent.
Et les médecins qui finalement
qui nous régalent aussi.
Mais oui, des braves types qui pour un billet de vin font un petit arrêt maladie.
Mais c'est parce que c'est par humanisme.
Évidemment.
Quand on parle avec Marty, ça n'existe pas.
Jérôme va revenir.
Jérôme, il est comme un fou là. Il apparaît qu'il saute dans un VTC qui est en arrêt maladie.
Fronton pour venir sur le plateau.
De Fronton et il nous rejoint. Allez, dans un instant, merci à Liès et à Philippe. Dans un instant, parents qui êtes prêts à faire louper l'école à vos enfants juste pour voyager moins cher, venez témoigner. Là encore, comme Philippe et Liès, en toute liberté.
Mais oui.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Tous les matins, dès 5h, RMC vous réveille en douceur ou accompagne la fin de votre nuit.
C'est Charles Matin.
De l'économie, du sport, du rire et bien sûr toute l'actualité.
À vos réveils, RMC Charles Matin, du lundi au vendredi, de 5h à 6h30.
Tous les jours dès 6h, Charles Matin est aussi à la télé sur RMC Story, canal 23 de la TNT.
Ce week-end, à l'Hippodrome d'Auteuil, c'est le Grand Steeplechase de Paris avec RMC. Assistez à la plus spectaculaire des courses d'obstacles de l'année. Prenez vite vos places sur francegallo-live.com. Le Grand Steeplechase de Paris, ce week-end avec RMC. À chaque obstacle, c'est votre cœur qui bondira.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC.
Rediff.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, discussion, débat avec les grandes gueules, avec Étienne Liebig, éducateur, avec Bruno Pomard, l'ancien policier du RAID, avec Barbara Lefebvre, la professeure d'histoire-géographie. On va maintenant vous nous appelez au 32-16, je vous appelle à témoigner concernant l'école. Est-ce que vous faites rater l'école pour pouvoir profiter des ponts, partir en vacances plus tôt et avoir ainsi des billets moins chers?
RMC, les grandes gueules.
Voyage, voyage.
L'école ne reconnaît aucune absence pour cause de départ en vacances, encore moins pour cause de pont du mois de mai.
Et pourtant, les Français n'ont plus tellement de gêne à faire sécher leur enfant pour partir un jour plus tôt en vacances, parce que ça coûte moins cher. C'est vrai que comme tout le monde part au même moment en vacances, bah, les billets de train, les billets d'avion, sur la route, il y a un monde dingue. Et donc l'idée, c'est de partir le vendredi ou le jeudi pour éviter cela et de payer moins cher. Plus de 4 Français sur 10 se disent prêts à faire manquer l'école à leurs enfants pour des vacances moins chères. D'ailleurs, ça va même plus loin, 77% des Français ne ressentent aucune gêne à l'idée de faire manquer l'école. Donc en fait, c'est quand même assez symptomatique du monde dans lequel nous vivons. Ce qui compte, c'est avant tout son bonheur personnel. Donc on est dans l'individualisme et c'est l'école à la carte. Peu importe les horaires, peu importe que ce jour-là, il y a quand même une professeure ou un professeur qui est venu faire cours. Peu importe que ça perturbe aussi, j'imagine, le rythme scolaire, puisque on peut pas faire ce jour-là des cours parce qu'il y a la moitié des enfants seraient pas là.
On va se gêner.
Alors, j'imagine que Barbara, c'est justement ce jour-là où elle met les contrôles.
Mais, ça m'arrive en effet. Voilà.
Mais est-ce que ça vous choque ou est-ce que vous comprenez? Moi, il y a quand même un truc, Barbara, c'est que j'ai jamais compris pourquoi dans ce système on faisait partir tout le monde au même moment, ce qui fait qu'on crée des bouchons dingues.
Les
zones ne marchent que pour les vacances d'hiver, les vacances de printemps.
Bah oui,
mais à Noël, il y a pas de zone, à Toussaint, il y a pas de zone, et l'été, il y a pas de zone.
Alors,
est-ce qu'on pourrait pas réfléchir aujourd'hui, en 2024, à pas faire partir tout le monde au même moment, ce qui permettrait effectivement une meilleure répartition sur les routes, dans les trains aussi? Puisque les TGV sont pris d'assaut et ça permettrait peut-être moins gêner les gens.
Oui, mais je croyais qu'il y avait qu'une proportion assez faible de Français qui prenaient vraiment des vacances, etc. À chaque fois qu'il y a des vacances, on nous explique non, mais personne ne peut partir en vacances.
Si, il y a des gens.
Moi, je voudrais quand même juste pourquoi en 2024 on devrait accepter quelque chose que, excusez-moi de me faire le côté nostalgique, etc., mais moi, je n'ai pas souvenir, enfant, que mes parents m'auraient autorisé ou se seraient eux-mêmes autorisés à faire louper l'école parce que mais on va partir un jour en avance en vacances. Il y a aujourd'hui effectivement un comportement non même plus d'usager d'un service public mais de client, c'est-à-dire que l'école est à la bonne disposition de certains parents qui nous considèrent donc non pas comme une école mais comme une garderie, et donc quand on n'a pas besoin de la garderie, on retire l'enfant de l'école. Donc moi je suis navrée, l'école elle se termine le vendredi, je dis n'importe quoi, le vendredi 25 juin, c'est le vendredi 25 juin. La date, c'est la date. Donc moi il m'est arrivé effectivement de faire des évaluations le jour de départ, enfin le dernier jour avant les vacances, ce qui signifie que les élèves absents sans motif, parce que le problème il est là aussi, c'est que l'administration reçoit des ordres du dessus, n'est-ce pas, où on lui dit soyez bienveillants, n'est-ce pas, soyez permissifs, et donc
c'est pas ses enfants,
c'est d'interdire de dire aux parents, excusez-moi monsieur, votre justification n'est pas une justification valable.
Et dans ce cas,
donc votre enfant sera sanctionné parce que votre justification, on sanctionne l'enfant.
Oui, mais...
et là peut-être que les parents vont comprendre que l'enfant, il est de toute façon sanctionné de ne pas aller en classe.
Non, mais
je comprends pas, l'école est obligatoire, l'école, il y a un calendrier, et justement, je veux juste terminer. On nous dit assez comme ça. Non mais après je
sais pas.
On nous dit comme ça, il y a tout le temps des vacances. On nous dit
que ça dure 3 heures l'émission.
On nous explique que les élèves sont tout le temps en vacances.
Bah, c'est la vérité en même temps.
Et alors pourquoi? Alors ils prennent des vacances en 16, plus donc.
16 semaines, non?
Et ils prennent des jours en plus.
4 mois de vacances.
Et donc ils prennent des jours en plus.
4 mois où les profs sont en vacances, tant mieux pour eux parce qu'ils ont un métier difficile, ça je l'admets. Mais si en plus les parents se permettent de.
Et voilà, donc
on va arriver bientôt à 5 mois. Un jour ou l'autre, on va plus faire que 6 mois par an de école, puis on va avoir des enfants de plus en plus cons. Et qui n'ont rien appris.
Non, mais
c'est la vérité. C'est la vérité.
Donc tolérance zéro.
Mais oui.
Toi, tu l'as jamais fait.
Jamais.
Moi, j'ai fait l'école missionnaire. C'est pour ça que je suis rentré dans la police après.
Non, mais en tant que parent, est-ce que tu as fait sécher tes enfants?
peut-être une fois, mais exceptionnellement, quoi. Mais là, c'est, on a l'impression que ça devient systématique, ce genre de
choses. Et
on le voit souvent, c'est vrai.
Etienne, ça dit quelque chose de la désacralisation de l'école.
Oui, totalement.
Et du fait que, alors, de deux choses. D'une part, de la désacralisation de l'école en tant que service public, mais aussi de la désacralisation de l'école en tant que lieu d'apprentissage des enfants. C'est-à-dire, je pense que très profondément, il y a quelque chose qui se joue. Non, parce que là, la façon dont tu l'utilises, il y a une façon péjorative de le dire. Moi, je pense très sincèrement que les gens continuent de penser que l'école est un lieu où on apprend, mais je pense aussi que l'école n'est plus le lieu, le seul lieu d'apprentissage, et que chacun se dit qu'on peut...
C'est du confort.
C'est aussi du confort, mais qu'on peut aussi apprendre ailleurs, et que finalement peut-être que mon enfant, il va plus apprendre en étant au bord de la mer et en regardant une étoile de mer qu'en étant dans sa classe.
Ou visitant un musée.
Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui se joue, qui est peut-être aussi que l'école devrait se poser des questions. Également, parce que là, pour l'instant, on est en train sans arrêt de condamner les parents, les enfants. Je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir aussi sur le fait que s'il y a une désacralité de l'école, désacralisation, c'est parce que aussi l'école, elle ne correspond peut-être plus tout à fait
à
une façon de penser.
C'est un argument que j'ai entendu ici même à RMC dans la bouche d'une animatrice célèbre dont je tairai le nom et qui a fait souvent sécher ses enfants, qui disait oui mais moi mes enfants si je les emmène au musée le jour
oui, où à condition que je les emmène au musée
finalement ça va une journée à l'école.
Ouais, j'essaye d'apporter autre chose une nuance que vous n'êtes pas habitué.
Oui, je sais,
mais surtout toi Pomard,
oui,
mais
exactement.
Tu peux pas frapper les parents parce qu'ils n'en voient pas.
Non, Julien, bonjour.
Il trouve des excuses à tout le monde.
Julien, bonjour.
Salut les GG.
Bonjour Julien, est-ce que ça vous est arrivé vous ou pas?
Oui.
Pourquoi?
Alors, je m'explique. Je suis entièrement d'accord avec Étienne. On est parti à Rome, on est parti à Naples, on a fait visiter des villes à nos enfants.
Et tu m'as pas invité.
Oui.
On a été en Espagne, on a été au Portugal. Et quand ils ont eu justement les cours sur le Vésuve, sur l'éruption, sur Pompéi, eh ben mon fils a pu leur expliquer plusieurs trucs qu'il avait vus justement là-bas.
Oui, vous auriez pu faire ça en respectant les dates.
Et niveau budget...
Voilà, c'est ça, vous avez surtout parti parce que c'est moins cher.
Il y a une sacrée différence.
Vous leur avez fait manquer quoi? Une matinée, une journée
Une semaine.
Oh putain, ah ouais d'accord, ah ouais, c'est beaucoup.
Et ils sont revenus plus enrichis que s'ils auraient fait une semaine.
Mais vous devriez faire l'école à la maison en fait, c'est tout. Faites l'école à la maison.
Écoute ce que dit ce monsieur au lieu d'avoir une position critique.
Je ne t'ai... Non, bah, d'abord, j'ai la position que je veux. Deuxièmement, il y a une institution. Non mais moi j'ai pas de problème. En plus je vais te dire, j'ai pas de problème avec l'école à la maison. Aucun problème avec ça. Je considère juste qu'il y a une institution scolaire et que tu donnes un exemple aux enfants. Tu leur expliques, il y a des horaires, il y a des règles, il y a des gens qui viennent travailler, c'est des profs. Il y a quelque chose qui se respecte. L'école, ça se respecte. Tu ne veux pas respecter les calendriers et les horaires. Il y a aucun souci avec ça. Tu fais l'école à la maison.
Barbara, je suis d'accord avec vous.
Sur ça,
je suis d'accord avec vous. J'ai fait louper des années, pas des années importantes. Comme là, ma fille, elle passe le brevet cette année. On l'a pas fait louper. Je l'ai pas fait louper une semaine pour partir en vacances. C'était une année de transition, l'année de quatrième, l'année de cinquième. Mon fils était en CM1, CM2, donc c'est pas en.
Oui, mais bon, Julien, le problème c'est que si tout le monde fait comme vous, c'est plus possible. C'est-à-dire que ça désorganise. Si tout le monde faisait comme vous, ça désorganiserait le système. Moi, je serais assez d'avis, pardon, je reviens sur mon idée d'assouplir quand même ces calendriers rigides qu'on a mis en place et qu'on n'ose plus toucher parce qu'il y a des intérêts, j'ai bien compris, divergents entre le tourisme, etc. Mais pourquoi on n'a pas mis l'été? Pourquoi on met pas des zones l'été différentes? Comme ça, tout le monde ne partirait pas le 31 juillet. Enfin, et ça permettrait.
On le fait quand même. Il y a un décalage.
Oui, mais ça permettrait mieux répartir. Ça coûterait peut-être moins cher, puisqu'effectivement, la SNCF serait pas obligée de matraquer quand même les tarifs et de faire plus 3 le prix du TGV. L'avion, pareil. Moi, je pense qu'on pourrait, on pourrait même décentraliser par région et pas seulement par académie. Enfin, il y a des choses à faire, mais on est quand même dans un système, Barbara, je suis désolé, tellement rigide, l'éducation nationale.
Ouais.
C'est pas d'ailleurs la faute des profs, c'est de ceux qui organisent. On ne bouge rien.
Je suis d'accord avec toi, mais je vais te dire une autre chose. Le tourisme. de masse en particulier a considérablement fait baisser les prix. Donc quand j'entends aujourd'hui des gens nous dire ah c'est vraiment tellement cher de partir en vacances alors que quand tu regardes les low cost,
ça dépend
où tu vas, d'accord, mais enfin les low cost permettent quand même à des prix autrement plus raisonnables que les prix que nos parents.
Oui, mais les vacances c'est parfois confié simplement
qui payaient dans les années 80 où voyager était plus cher.
Alors
c'était pas l'école pour
toi. Merci Julien, confié aux grands-parents, enfin c'est ça aussi
Julien de
Julien principe, mais apparemment on vit une époque où il y a plus de principe.
Julien, je vous remercie de ce témoignage. Une dernière chose, Julien, est-ce que là, avec l'approche des vacances d'été, vous vous êtes organisé pour que les enfants partent plus tôt encore ou pas, Julien?
Ils
vont partir chez mes parents qui habitent dans le sud, qui ont une maison avec une piscine, donc là ils
Ils
ne manqueront pas l'école.
Et en plus, elle passe le brevet à la fin de l'année.
Ouais, si elle n'a pas le brevet, tu lui supprimes sa piscine.
Et le pire, ce qui serait intéressant de voir là-dedans, c'est qu'au pire, c'est que les parents qui font ça, sûrement, sont les premiers à critiquer les profs derrière, hein, dans le travail, dans tout.
Alors, Arnaud, bonjour Arnaud.
Mais oui,
Bonjour Arnaud, bienvenue sur RMC. Est-ce qu'on peut me mettre Arnaud en ligne, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me le mettre?
Allô,
en direct? Voilà, bonjour Arnaud. Alors, et vous alors?
Ah, moi j'ai aucun état d'âme, j'entends ce qui se dit sur le plateau, je l'ai rarement fait, je le fais demain, mais je n'irai pas à l'école, j'ai aucun état d'âme et j'entends Barbara qui parle de principes. J'ai des principes, mais apparemment c'est à géométrie variable parce que les profs n'en ont pas toujours. Je m'explique, dans le Nord on était en zone B, donc on était la dernière zone en congé, donc ce qui fait que nos enfants auraient dû reprendre la semaine dernière. Et moi, les profs ont décidé de ne pas faire cours lundi et mardi pour avoir mercredi férié, jeudi férié et faire le pont vendredi. Donc ils ont pris une semaine de vacances supplémentaires pour partir au
soleil.
Qu'est-ce
que vous appelez ils ont pris, monsieur? Parce que, excusez-moi, mais dans les académies, il y a des calendriers, des professeurs qui, dans une école, je ne sais pas si c'est une école primaire.
C'est pas une école complète. C'est plusieurs écoles, même des lycées, qui ont fermé sur l'académie.
Donc c'est le rectorat qui a octroyé ces deux jours. Et je vous informe, Arnaud, que ces deux jours sont forcément rattrapés à un autre moment du calendrier.
Oui. Moi, ma fille a rattrapé ma fille de CP a rattrapé un samedi matin, donc pour combler deux journées complètes, elle a rattrapé un samedi matin pour faire les Jeux Olympiques pendant 2h30 et un samedi matin pour faire une session tam-tam de 20 minutes.
Je suis d'accord avec vous, c'est n'importe quoi.
On parlait d'éthique, Barbara.
Je suis bien d'accord avec vous, mais moi je suis d'accord avec Arnaud. Ce n'est pas normal. C'est
des
mercredis. Mais je suis complètement d'accord avec
Barbara,
vous. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est l'institution elle-même qui n'a pas arrêté de se tirer des balles dans le pied depuis 20 ans avec sa bienveillance, avec son truc à géométrie variable, avec un coup on laisse passer, un coup on est soi-disant strict, après on laisse à tout va. C'est justement aussi parce que l'institution et les institutions de cette République ne se tiennent plus debout que le citoyen se comporte comme un client. Ça, c'est le résultat. C'est un cercle vicieux. Mmh. Et donc, les premiers qui doivent reprendre pied, c'est effectivement les enseignants, et les rectorats ne doivent pas accorder des trucs comme ça.
Arnaud, je vous remercie, vous aussi, d'avoir été avec
nous. Je voulais juste ajouter quelque chose. Juste pour dire que cette troisième semaine de vacances que se sont octroyées les profs, le rectorat, je ne sais qui, peu importe, nous, on a dû le subir puisqu'il n'y avait pas de centre aéré, il n'y a pas de périscolaire. Donc, en fait, on a dû poser des jours, on a dû faire du télétravail, on a dû trouver papy et mamie. Et aujourd'hui, on va me reprocher, moi, de ne pas mettre mes filles demain à l'école parce que je dois partir sur un mariage dans une autre région. J'ai pas d'état d'âme.
Eh ben vous avez, non mais dans votre logique
après,
à vous, vous avez raison.
Pour
non,
un
mais...
mariage, on peut faire des
regrets. J'aimerais vraiment, excusez-moi Arnaud, si vous pouvez après en off me laisser le nom de la région et de la commune où c'est arrivé, parce que franchement je vais vous dire, ça doit être un truc de syndicats locaux ou je ne sais pas comment ils ont fait pour obtenir ça, mais c'est honteux.
Moi je dis c'est LFI. Peut-être les Canaques.
Merci Arnaud d'avoir été dans les GG.
C'est Macron. Tout le monde.
Alors, est-ce que faire louper l'école à vos enfants pour voyager moins cher, est-ce que vous le faites? On va regarder la consultation. C'est un oui à 54-4.
Ah oui, c'est pas si.
Non, 45.
C'est majoritairement, ils disent oui.
En fait, les 45, c'est ceux qui n'ont pas d'enfants.
Puisque beaucoup qui font rater l'école aux enfants, c'est pour pouvoir profiter de tarifs moins chers, donc une question de pouvoir d'achat. Moi, j'ai la solution au pouvoir d'achat, c'est la roue multicash.
Ah ben oui,
bien sûr, c'est la roue. Et je rappelle que dans les GG,
hier, on a fait gagner 10 000 euros. Hein.
10 000 euros,
ah ouais,
attendez, ça rigole pas.
Donc là, vous avez jusqu'à 20 000 euros à gagner.
C'est une personne innocente.
En fait, ça va de... la roue va de 100 à 20 000 euros. Et c'est donc hier 10 000 euros qui ont été gagnés. La roue multicash, elle va tourner tout à l'heure chez Estelle Denis. Mais dès que vous entendez ceci, vous envoyez roue par SMS au 732-16. Roue par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes dès que vous entendez le signal pour envoyer ROE. Mais pareil que ROX marche aussi.
Ceux qui n'ont pas été à l'école,
c'est inclusif.
J'avais pas vu ça.
Parce que les gens se trompent, ils mettent un X.
Et alors du coup, vous avez accepté
cette orthographe. Oui, c'est vrai, c'est une complaisance.
Tu vois, tout se perd. Moi, c'est R-O-U-E ou rien.
C'est pour ça que je dis R-O-U-E.
Et j'avais pas vu la subtilité roue multicache.
R-M-C. Mais oui, monsieur Pomard.
Attends, tu sais, ici, ça bosse.
Ah oui, j'ai l'impression.
Il y a une créativité.
Ah, il y a des intellectuels, pour tout.
Une équipe de créatifs.
C'est l'époque où les gens allaient à l'école.
Ça rappelle pourquoi est-ce qu'en Turquie, on est plus intelligent que tout le monde, parce que là-bas, ça bosse fort.
Évidemment.
Tu l'as dit, elle n'était pas cette blague, mais à l'époque, on savait où était le Bosphore.
Non, mais le Bosphore et les Dardanelles.
Et le Jourdain.
Les Dardanelles.
Le détroit des Bosphores et des Dardanelles.
Allez, à tout de suite avec les GG au 32-16 pour continuer nos discussions.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Bonjour, c'est Apolline.
RMC, Apolline Matin.
Vous voulez une matinale où on vous parle de vos préoccupations, où on vous parle de pouvoir d'achat, de sécurité, d'économie. Vous voulez qu'on vous accompagne, vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez des réponses sans concession à toutes les questions que vous vous posez, et puis vous voulez vous marrer. Ben, ne cherchez plus. On est là avec toute l'équipe, avec Charles, avec Manu, avec Nicolas, avec Amélie, avec Arnaud, et avec vous au 32-16. Alors à tout à l'heure, 6h30, 9h pour Apolline Matin.
RMC Escrime. Du 17 au 19 mai, c'est le Challenge Monal. La Coupe du Monde d'épée hommes accueille les stars mondiales de l'escrime à Saint-Maur-des-Fossés. Encouragez le champion olympique Romain Canon et ses partenaires de l'équipe de France pour la dernière épreuve sélective avant les Jeux Olympiques. Info et résa sur ffescrime.fr. Le Challenge Monal. Du 17 au 19 mai avec RMC.
RMC partout. RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Il a fait tourner la roue RMC.
Bonjour.
Bah déjà, vous êtes de bonne humeur, vous êtes content d'être avec nous. Allez, go Anaïs, fais tourner.
Oh, 10 000 euros.
Oui, 10 000
euros. Yes.
Bien joué.
Maintenant, c'est à votre tour.
Jusqu'à 20 000 euros par jour à gagner sur RMC. Pour jouer, dès que vous entendez.
Envoyez roue par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Roue au 732-16. Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ? Sur RMC.
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules, c'est avec vous sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui 3 GG, Étienne Lévy, Bruno Pomard, 3
GG
et Barbara
Lefebvre. Si je puis dire, merci. Si je puis rajouter en toute objectivité,
oui.
3 GG exceptionnels.
De haut calibre.
Non, mais c'est important de...
Oui,
de...
Ils se sont mis en arrêt maladie pour pouvoir être dans les grandes gueules.
Et ensuite, Barbara, elle est chauffeur VTC, Barbara.
Oui, tout à fait.
Quand elle rentre chez elle, elle prend toujours des clients.
Oui, toujours. Et je peux vous dire qu'ils arrivent à bon port et rapidos.
Elle est vétérinaire, plutôt. Surtout si c'est sur un animal.
Et après, elle est vétérinaire la nuit.
Bruno va faire vigile devant un supermarché.
Oui. Et ça marche,
de toute façon. Et Étienne a 2-3 carrelages à terminer dans des ministères. Allez, on y va pour le GG 7 et match.
RMC.
GG 7 et match.
De quoi va-t-on parler aujourd'hui dans le GG 7 et match ? D'une tribune ou d'une interview, d'un entretien avec les lecteurs du Figaro qui est signé du général Lecointre. Lecointre, c'est l'ancien chef d'état-major des armées. Il s'est confié et il a notamment parlé de la charge des responsables politiques. Voilà ce que dit le général Lecointre. Le président, écoutez bien.
Oui, il faut écouter bien.
Le président et le premier ministre ont une vie de chien, dit-il. Ils passent leur temps à se faire injurier. Ils sont épuisés, mal payés, alors qu'ils ne pensent qu'au bien commun.
Attention.
Voilà.
Attention, mon cousin.
C'est ce que dit le chef d'état-major des armées, l'ancien chef d'état-major des armées, le général Lecointre. Je répète la phrase. Le président et le premier ministre ont une vie de chien. Ils passent leur temps à se faire injurier. Ils sont épuisés. Ils sont mal payés, alors qu'ils ne pensent qu'au bien commun. Alors, le GG, cette image, c'est est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'on est trop dur avec nos responsables politiques ? Oui, pour Bruno et Étienne. Non, pour Barbara et Olivier. Vous venez au 32-16. Tiens, je vais te donner les 60 secondes. Dis-nous pourquoi tu penses comme le général Lecointre.
Écoute, moi je pense effectivement que c'est un boulot de chien. Je pense effectivement qu'ils sont là pour le bien commun. Je pense qu'ils se plantent souvent, qu'ils se trompent, ils font des erreurs. Des fois, ils sont responsables de faire des erreurs parce qu'ils s'entourent mal et donc on peut considérer qu'ils se plantent comme là, en ce moment, avec la Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'ils se trompent de façon d'intervenir. Mais je pense que fondamentalement, quand tu te retrouves dans un statut de président, de premier ministre, de ministre, tu es absolument absorbé par le bien commun et par le bien de la République. J'en suis absolument intimement persuadé. Même les pires individus le sont. Et quand tu te retrouves à des responsabilités politiques, d'un seul coup, tu es investi d'une mission. Alors parfois tu n'as pas la carrure de l'assumer et tu trembles. Mais tu te trouves investi d'une mission. Mais par ailleurs aussi, reconnaissons tout de même que le gros avantage qu'ils ont sur tout le monde, c'est le pouvoir. Parce que s'ils se battent tous pour y arriver, c'est parce qu'ils ont soif de pouvoir. Mais je pense franchement que c'est pas un boulot enviable.
Quoi qu'on a gagné.
Réponse, Barbara.
Non, j'adore, c'est quand tu te retrouves président. Mais tu te retrouves pas là par hasard, je crois.
Oui,
je crois que tu y as consacré une bonne partie de ton existence. Alors bon, pour Monsieur Macron, le hasard a bien fait les choses parce que on lui a tellement mis de courte échelle que il était littéralement propulsé là où il a été. Non, mais c'est des gens. Ils sont pas là par hasard. Ils sont là parce que ça leur convient, ça leur plaît, ça les intéresse. L'intérêt général, au vu, au final, puisque nous avons un certain recul, que ce soit M. Sarkozy, M. Hollande, qui eux en ont carrément fait carrière, mais même M. Macron, qui est un jeune politicien, on est en train de se le supporter depuis 7 ans, donc on a déjà un petit bilan. L'intérêt général, je ne vois pas bien, vu l'état de la situation. Donc, si vous voulez, je ne vais pas verser une larmichette, parce que ces messieurs seraient fatigués. Oh bah dis donc, il y a d'autres gens qui sont fatigués, qui ont des travaux fatigants, excuse-moi. Mais je crois qu'une aide-soignante qui habite à Garges-lès-Gonesse et qui se lève tous les matins pour aller bosser à l'hôpital Saint-Louis, je crois qu'elle est fatiguée aussi. Et surtout qu'elle, elle gagne moins que monsieur Attal et monsieur Macron.
Le coup de l'aide-soignante, c'est...
J'aurais pu te dire même le chauffeur VTC.
Ce que tu as oublié, Barbara. C'est un engagement. Moi, je suis élu, je suis un petit élu, je suis rien du tout par rapport à ces gens-là. Je suis un petit maire de rue. Je l'ai fait par engagement parce que je pense essayer d'aider la population dans mon village.
On n'est pas dur avec les maires.
Mais à ce niveau,
tu as raison. Il y a du président de la République et du premier ministre,
mais
des maires.
D'accord, mais c'est pareil.
Les maires, ils sont relativement respectés.
Pas tous les maires.
Les
maires des grandes villes, c'est pas la même chose.
Mais encore une fois, on vient pas là par hasard. C'est un engagement. Ils le veulent, effectivement. Mais ils ne méritent pas non plus d'être insultés.
Mais personne ne mérite. Tu mérites, toi, sur les réseaux sociaux, de te faire insulter comme on se fait insulter dès qu'on a une parole publique.
Bruno, ce qui va pas dans la déclaration de
Lecointre. Quand on a une parole publique, on se fait insulter. C'est comme ça dans ce monde merveilleux aujourd'hui.
Ce qui va pas dans la parole de Lecointre. Très mal payé. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je trouve qu'ils sont pas très bien payés parce que pour des raisons démago, on a diminué les salaires et c'est un peu ridicule. Et je pense qu'effectivement, il y a peut-être des gens qui aujourd'hui hésitent à s'engager en politique parce qu'ils gagnent beaucoup mieux dans le privé. Donc ça, peut-être. Injurier en permanence, ça, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de respect des politiques. Ils sont même insultés parfois. Leur tire dessus, comme en Slovaquie. Épuisé sans doute, parce qu'effectivement, tu n'arrêtes pas quand tu es Premier ministre, c'est tout le temps. Après, là où ça ne va pas, c'est quand il dit qu'on est trop dur. Non, on n'est pas trop dur. Le problème du politique, c'est qu'il a de moins en moins de pouvoir. Donc peut-être qu'effectivement, on demande toujours trop au politique parce qu'on pense qu'il va tout régler, mais on sait qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, le politique, il pèse moins que le patron d'une grande entreprise du 440, qui aura plus d'incidence dans notre vie que le politique, que le secrétaire d'État ou le ministre. Oui, mais le problème de Macron, surtout d'Emmanuel Macron, qui est un étatiste vertical et qui pense qu'il faut tout décider de l'Élysée, c'est qu'il fait croire aux Français qu'il va régler tous les problèmes. Et on s'aperçoit chaque jour dans cette émission qu'il y a des problèmes partout et notamment dans l'État. Il n'y a pas un truc qui fonctionne correctement dans ce pays, à part peut-être les impôts, puisque là on est assez bon pour prélever les impôts.
Mais quand la police, on voit que ça ne fonctionne pas.
C'est partout. Regarde ce qui se passe avec le fourgon qui a été attaqué. On s'aperçoit que c'est n'importe quoi, l'extraction des prisonniers.
Défaitiste comme l'opposition.
Moi, je suis pas défaitiste.
Mais si,
Macron arrive à la télé, ou le Premier ministre arrive à la télé en disant plus rien ne va, il y a des choses qui vont en France. Il faut arrêter sans arrêt d'être.
Mais regarde Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, que tu aimes bien, le ministre de l'Intérieur ce matin, au lieu de dire. Un peu honnêtement, effectivement, en Nouvelle-Calédonie, on s'est planté. À la fois la méthode et peut-être qu'on n'a pas mis assez de forces de l'ordre, ce qui fait que les habitants sur place ont été livrés à eux-mêmes et ils ont eu la peur de leur vie. Il dit quoi ? C'est l'Azerbaïdjan. Il dit ça. Ah, bah, c'est l'Azerbaïdjan. Donc, tu veux, à un moment donné.
C'est pas okay. le moment c'est de le dire. S'il doit dire, bah, non, s'il doit faire son mea culpa, il le dira.
Olivier, tu confonds.
L'Azerbaïdjan, mais c'est pas le problème
Olivier,
numéro 1.
Olivier, excuse-moi, mais tu confonds. Tu confonds. Moi, j'ai bien dit que très souvent, il arrivait qu'il soit pas à la hauteur de la fonction, et très souvent, il arrivait qu'il se plante. Ça, c'est tout à fait normal. C'est des hommes politiques, on leur demande. Je rappelle que là. Bon, tromper, bon on est OK. Mais je pense que quand il s'engage dans cette dans ce certes il y a de l'ego qui est en jeu, on va devenir le président de la France, c'est un truc un peu merveilleux, mais en même temps je pense que ils partent avec un sentiment de, d'ailleurs la première chose que dit le président quel qu'il soit, et que dira même le président d'extrême droite s'il arrive, et d'extrême gauche aussi, je suis à partir d'aujourd'hui le président de tous les Français. Il dit pas je suis le président de la minorité qui m'a élu. Non,
ah bah
il dit je présente.
Bah,
alors, attends.
Ah bah et donc, pourtant, et bah, ça s'est vite senti qu'il était le président de ceux qui ont réussi leur vie, et
regarde,
pas de ceux qui ne sont rien.
Mais regarde.
Et paf, on était à peine arrivé,
regarde,
ça faisait à peine deux mois qu'il était président.
Oui, mais c'est pareil. Ça, c'est pas regarde ce qui s'est passé en Italie avec Mélanie. C'est exactement la même chose.
Les gens sont très populaires, Mélanie.
La première chose qu'elle a fait, c'est de punir les gens qui l'avaient
vu. Elle est contrairement à Emmanuel Macron, elle est aujourd'hui très populaire.
Elle est restée populaire.
Parce qu'elle prend des positions sociales, sociétales. Qu'aimerait bien Barbara, mais c'est pas les positions sociétales, c'est pas ça qui fait la politique d'un pays. Le pays est dans la merde complète. Donc en fait, je pense qu'on se trompe. Je dis bien qu'ils peuvent être impuissants sur certains domaines, mais je pense que c'est des gens a priori honnête. Je ne crois pas que les hommes politiques aujourd'hui, en 2024, arrivent au pouvoir.
Mais on n'a pas dit qu'ils étaient malhonnêtes.
Je vais me faire de la thune, je vais prendre du pouvoir et je vais rien foutre.
On dit que ce n'est pas les plus à plat.
Les critiques qui sont posées sur le gouvernement et l'exécutif de M. Macron sont des critiques sur le fond de leur action. Je n'accuse pas M. Macron d'être là pour se faire de l'argent ou d'être un fainéant. Je suis là pour dire qu'il ne fait pas correctement son travail et que la France, telle qu'il l'a prise, était déjà en mauvais état et il va la rendre dans un état encore plus calamiteux.
Et
que ce type-là s'est fait élire sur moi ou le chaos et que c'est lui le chaos. Donc c'est tout ce que je dis. Et ça, c'est une critique factuelle. Si ça c'est trop dur et que ça lui fait la larme à l'œil, ben excuse-moi, fallait pas qu'il fasse ce boulot.
Ça mérite d'être insulté, d'être.
Non, mais je ne l'insulte pas.
Bruno,
il faut
à un moment donné aussi que les politiques se demandent pourquoi on bat des records d'abstention, parce que le fait nouveau aussi dans notre démocratie et d'ailleurs dans la plupart des démocraties occidentales, c'est l'abstention. Donc il y a un problème dans le rejet du politique.
Absolument. Il est 11h05, c'est parti. Vous avez 5 minutes devant vous pour envoyer roue par SMS au 732-16. 5 minutes devant vous pour envoyer roue par SMS au 732-16. 20 000 euros à gagner et 20 000 euros à gagner tout à l'heure chez Estelle Denis dans Estelle Midi. La roue va tourner à 14h40. Allez-y, tentez votre chance. C'est comme, je crois que c'était Philippe, il me semble, qui hier a gagné les 10 000 euros dans les GG, dans les grandes gueules. Tout à l'heure, c'est chez Estelle Denis, 14h40. En 5 minutes, envoyez roue par SMS au 732-16. À vous de vous inscrire et de gagner tout à l'heure une somme d'argent. On revient à notre discussion, pardon, Bruno.
Sur l'aspect financier, je ne pense pas que ces gens-là fassent ça pour ça.
Non.
Parce que Macron était banquier et il a gagné bien plus de thunes qu'en étant président.
Aujourd'hui, au même niveau,
15 000 euros par mois.
D'études, il faut mieux être dans le privé que ministre.
Totalement. T'as les emmerdes et t'as pas le pognon derrière.
Oui, mais t'inquiète pas que quand t'as fini ta charge ministérielle, le joli réseau que tu t'es fait, et crois-moi que tu t'en fais du pognon derrière.
Regarde Dominique de Villepin.
Oui. Ils rebondissent tous, va.
Oui. Mais à la limite, comprenons-le. Mais moi je trouve que vous êtes vraiment très, très dur. Parce que la charge, excusez-moi de ramener un petit peu à ce que je fais en tant qu'élu du rural. Quand ces gens, ces responsables politiques, est énorme, franchement. Et même s'ils font mal, ils essaient de faire pour la France. Je pense pas que Macron est arrivé au pouvoir en disant, tu vois, je vais foutre un bordel en France. Ça va être...
Non, je pense qu'il avait, il est sincèrement convaincu.
Ça mérite, je pense.
Il agit pour le bien.
Oui, alors, est-ce que vous êtes, il allait casser la baraque
d'accord avec Bruno et avec Étienne, on est trop dur avec nos politiques.
Non.
Ou au contraire, il y a la fonction, il y a la charge, et c'est normal qu'on les critique, c'est ce que disent Barbara et Olivier. Qui va remporter ce match? Vous saurez ça en restant avec les grandes gueules en direction RMC, RMC Story.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules.
Tous les samedis et dimanches, de 6h30 à 9h30, c'est la matinale week-end sur RMC. L'info, le sport, toutes les demi-heures, des invités au plus près de l'actu, mieux manger avec Perico Legas et vous au 32-16. La matinale week-end, c'est demain et dimanche, dès 6h30 sur RMC.
Ce week-end, à l'Hippodrome d'Auteuil, c'est le Grand Steeplechase de Paris avec RMC. Assistez à la plus spectaculaire des courses d'obstacles de l'année. Prenez vite vos places sur francegallo-live.com. Le Grand Steeplechase de Paris, ce week-end avec RMC. À chaque obstacle, c'est votre cœur qui bondira.
Ok Google, mais RMC.
Ok.
RMC est disponible sur toutes vos enceintes connectées. RMC, partout, tout le temps.
Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La discussion, le débat avec les GG, avec les grandes gueules, avec Bruno Pomard, avec Étienne Liebig, avec Barbara Lefebvre, comme tout à l'heure à 11h20, où on reparlera de l'attaque du fourgon pénitentiaire pour faire libérer le malfrat Mohamed Amra, qui est devenu l'ennemi public numéro un. Mais quand on regarde le parcours de Mohamed Amra, on s'aperçoit que, en fait, alors, je ne sais pas si on est sur un parcours classique, mais la déscolarisation, les problèmes scolaires ont commencé voilà, en troisième à 12 ans.
Première condamnation à 15 ans.
À 15 ans, les premières condamnations. Et puis après, ça n'a pas arrêté. Quoi, et on en est à 13 condamnations.
Ouais, rodéo urbain, des trucs presque voilà. Classiques.
Alors, attendez, on n'y est pas. Attendez, une seconde. Pardon. On n'y est pas encore.
Oui, ne nous lance pas, non.
On n'y est pas encore. Barbara Lefebvre, Étienne Liebig, Bruno Pomard, tout à l'heure, donc à 11h20. Est-ce qu'on n'a pas su juger de la dangerosité ou on n'a pas pris en compte justement ce multidélinquant Mohamed Amra? 32-16 pour en parler tout à l'heure à 11h20. En attendant, on revient à notre discussion, notre GG 7 et match sur les responsables politiques. Et ce que dit le général Lecointre, l'ancien chef d'état-major des armées, pour qui le président de la République et le Premier ministre sont des gens qui passent leur temps à ne penser qu'au bien commun, qui ont une vie de chien, qui sont mal payés, qui sont injuriés en permanence et qui sont épuisés. Est-ce qu'il a raison, général Lecointre? Mélanie va en parler avec nous. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Mélanie de Côte d'Or.
Exactement. De Saint-Landelone.
Ma chère Mélanie, oui. Dans quelle équipe êtes-vous? Celle qui dit oui, il a raison ou non, il a tort, on ne va pas les plaindre.
Je suis à 100 000% dans l'équipe de non. Ils n'ont pas à se plaindre.
Oui.
Non, ne dites pas ça.
Pourquoi?
Tout simplement avec une seule phrase, ils respecteraient ce qu'ils nous promettraient. Ben déjà, je serais beaucoup moins lynché.
S'il respectait les programmes.
De l'indulgence, madame, ma chère Mélanie.
Mais elle a raison.
Bah, il y a beaucoup de mensonges. Peu importe quel homme politique, ils nous promettent toujours des mondes et merveilles. Ouais. Et finalement, on n'a même pas 1% de ce qu'ils disent. Donc forcément, déjà...
Donc il y a de la déception à chaque fois.
C'est ça, ceux qui étaient déjà contre eux, automatiquement, ils continuent à les lyncher. Et ceux qui étaient avec eux, finalement, ils sont tous déçus parce que personne, finalement, ne fait ce qu'ils disent, quoi. Mmh.
Oui, mais parce que pendant les campagnes électorales, il faut laver plus blanc que blanc, il faut faire des promesses qui sont inatteignables.
Intenables.
Oui, puis on peut même gagner sans programme. Excusez-moi, la deuxième élection, déjà avec la première élection de M. Macron, pour moi, le programme d'En Marche, ça tenait sur un post-it. Mais alors carrément, le deuxième mandat, il n'y avait pas de programme. Son programme, c'était « Ah là là, il y a la guerre en Ukraine ». Ah bah ça, c'est sûr que comme programme. Donc, j'ai pas le temps, je peux pas faire campagne. Et quand je fais campagne, c'est juste pour dire « Attention, sinon c'est le fascisme ».
Bon, bref.
Non, mais excuse-moi, non, mais quand
Barbara,
tu fais campagne avec zéro programme...
Barbara, il y a des choses qui ont été faites. Regarde, tiens, moi, je te prends l'exemple que je connais un peu. Ministère intérieur, 15 milliards de votés pour notre police, 3 milliards par an pendant 5 ans. Ben, c'est des choses importantes pour la sécurité des Français.
Oui, ça, on sait que pour la police, ils ont
fait... facile de dire... ouais,
je parle d'éducation nationale, non, mais vaut mieux pas.
Les profs, quand même.
Les greffiers, il y a 1500 greffiers qui ont été embauchés, enfin, qui sont embauchés actuellement. Il y a quand même des choses qui sont faites. On peut pas...
Ils ont attendu combien de temps pour le faire, que ce soit la catastrophe?
Non, mais tu vois, je trouve, moi, je suis vraiment pas macroniste du tout.
Ah bon?
Mais j'aime pas non plus les prises de position systématiques d'opposition, comme le fait LFI d'ailleurs, bien souvent, sûr. Et ça m'énerve, ou Barbara, et ça m'énerve aussi, c'est-à-dire ne rien reconnaître parce que c'est Macron et qu'on le hait. Je trouve ça, je trouve ça absurde. On n'est plus dans une période où on peut se permettre ça. On voit que dans tous les pays c'est compliqué, on voit que personne n'a de solution magique, on voit que tous les gens font des promesses intenables, on voit que ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être différent, on voit que c'est compliqué partout. S'il y en avait un qui avait le secret, on le saurait et personne ne l'a. Donc je pense qu'il faut être d'une... Il faut dire quand ça merde et il faut être, indulgent. Et il faut être aussi...
On est d'accord. Voilà, mais je serais d'accord avec toi, sauf qu'on voit bien effectivement qu'il y a un rejet du politique un peu partout dans les démocraties.
Absolument.
L'abstention progresse, les populistes arrivent au pouvoir. Oui, mais moi j'en veux beaucoup aux politiques traditionnelles qui pendant trop longtemps on se dit c'est pas grave tant qu'on est réélu, même si on est réélu avec 15% des voix, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. La plupart de nos députés actuels sont minoritaires dans leur propre circonscription puisqu'ils ont été élus avec des abstentions records, 60-70%, ils représentent 15% du corps électoral et ils font comme si ils parlaient au nom de tout le monde. Et donc ça, c'est un marché de dupes. Donc le jour où les politiques se diront effectivement allez, on s'arrête et on se dit qu'est-ce qui va pas, comment on fait la politique autrement, comment les électeurs et les politiques, là je pense que ça changera.
Oui, mais
là, Emmanuel Macron, pardon, et je termine, Emmanuel Macron, beaucoup ont cru en lui en 2017 parce qu'il il avait l'impression d'offrir quelque chose de nouveau en disant voyez, les vieux partis traditionnels sont échoués, etc. Mais, on va faire la politique autrement. Et finalement, Emmanuel Macron, 7 ans après le pouvoir, il est comme les autres. Il fait la même politique. Il se plante comme les autres.
Mélanie, justement, puisque vous dites voilà, ce qu'ils nous promettent, ils ne le tiennent pas, mais. Par exemple, sur quel domaine vous aimeriez voir les promesses vraiment tenues et le pays évoluer, alors, Mélanie ?
Oh, bah, y en a tellement, je ne sais même pas par lequel commencer, en fait. Parce que quand ils font des promesses, ils ne les tiennent pas. Et quand tu vas faire passer des choses que la majorité des Français ne veulent pas, ils disent « Bon, pas grave, 49-3 ». Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On vote pour finalement, en fait...
C'est vrai que le 49-3 n'a pas arrangé les choses.
J'ai l'impression qu'on pourrait voter pour n'importe qui, voilà. Mais que finalement, ce serait pareil.
Alors Mélanie, on va voir ce qu'en dit Benoît, qui est avec nous, il s'appelle de Saône-et-Loire. Bonjour Benoît.
Oui, bonjour, comment ça va ?
Ça va Benoît, est-ce que vous pensez que trop sévère avec les politiques ou pas ?
Ouais, je pense, mais après, le gros problème de la France, c'est qu'on a un pays de chialeuse, en fait. On attend tout du gouvernement, tout. On sait que, par exemple, moi, quand j'étais en troisième, donc ça date, on savait déjà que le système de retraite par répartition était mort et que, mais aucun veut ouvrir les yeux. Mmh. Donc, en fait, on attend tout de l'État. On se dit, oh, bah, tiens, c'est vrai que quand je serai vieux, je pourrai plus travailler, mais il faut que ce soit l'État qui mette de l'argent de côté pour moi.
Oui, mais pardon, mais on attend tout de l'État, mais l'État nous fait croire qu'il peut s'occuper de tout aussi.
Mais c'est ça, regardez.
L'État de nous, c'est l'État qui a créé.
On a plus de 3000 milliards de dettes, on peut plus.
Mais justement, nous on est d'accord avec vous, on attend tout de l'État et on n'a pas à attendre tout de l'État, mais vous voyez le discours que monsieur Macron tient en permanence, il nous parle même de la ménopause, il nous parle de sujets qui ne sont pas des sujets qui sont du niveau du président de la République. Le président de la République doit avoir une vision,
dans les écrans et
voilà,
tout ça.
Une vision, il met en place un certain nombre de points et d'éléments stratégiques fondamentaux qui sont de long terme et qui sont du régalien, mais un président de la République bavard qui parle tout le temps, qui parle de tout et de rien et qui nous parle de la situation internationale et trois minutes après qui vous parle de la ménopause, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je suis désolée et j'en profite une seconde. Quand tu parles de haine, je n'ai pas la haine d'Emmanuel Macron, pas du tout. Je considère juste que Emmanuel. Non, c'est pas de la haine. La haine, c'est quelque chose d'irrationnel, d'émotionnel et de bête et méchant. Moi, je considère que Emmanuel Macron, depuis 2017, j'étais contre son élection parce que je considère que son programme, qui était un programme ultra-libéral, hyper-européiste, et que c'était déjà un déni de la souveraineté nationale, moi, pour moi, ça allait dans le mur. Et toutes les crises qui ont suivi n'ont fait que me renforcer. Et par ailleurs, ses propos méprisants à l'égard des Français, les gens qui ne sont rien, les cheveux emmerdés, les non-vaccinés et compagnie, tout ça, moi, ça me met un président de la République qui
Barbara,
ne respecte pas les Français.
Barbara,
Mitterrand respectait les Français, Chirac respectait les Français, je suis désolée,
Barbara,
c'est d'un autre niveau.
Rappelle-toi que aujourd'hui, la politique sur les grands, tu parlais de grands domaines régaliens, Aujourd'hui, en gros, ils n'ont pas trop de choix dans ces domaines-là.
Ah ben voilà.
Parce que, mais non, mais c'est la réalité. Ah. Il faut l'admettre, que ce soit aux États-Unis.
Mais il est content, Macron, il aime ça,
que ce soit, dans les soit terminé, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, soit en Espagne, que ce soit en France. Voilà. Les, en gros, tout le monde va dans les mêmes directions.
Pas aux États-Unis.
Là, mais si, aux États-Unis non. aussi, absolument.
Non, c'est.
Mais, pas du tout. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se vengent sur les questions sociétales.
Pas du tout.
Donc, des trucs de second degré. On est tout à fait d'accord. La ménopause, etc. Yale, tout ce que tu voudras, sur des sujets sur lesquels ils savent qu'ils vont avoir une espèce d'impact comme ça. Je prends position pour l'Eurovision dont tout le monde se tape. Je dis ça pour parce qu'ils n'arrivent pas à aborder les véritables questions.
Bah oui, mais c'est ça le problème.
Mais parce que ça, mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas franco-français.
Mais pardon, mais ça, moi t'attends du chef de l'État qui s'occupe de l'État.
Non, non,
qui s'occupe des missions de l'État. T'attends pas du chef de l'État qui nous parle de la vie, qui nous explique que les parents doivent faire ça avec leurs enfants, etc. En plus, c'est insupportable parce que les Français qui sont pas des enfants disent mais ils nous donnent des leçons de matin, midi et soir. En plus, comme c'est un jeune chef d'État qui par ailleurs n'a pas d'enfants, etc. Ouais, donc il y a un côté. Mais qui est ce jeune? Que connaît-il de la vie pour m'expliquer ma vie? Moi, ça m'a toujours frappé de voir Emmanuel Macron qui se déplace et qui explique à une aide-soignante qui a 55 ans, qui fait ça depuis 30 ans, comment elle doit faire son métier, qui explique à un prof qui fait ça depuis 30 ans. Moi, je pense que ça rend les choses insupportables puisque en plus par ailleurs, il n'a pas de résultats. S'il avait des résultats exceptionnels,
exactement.
Si la police, l'hôpital, l'armée, tout ça fonctionnait très bien, si la justice, on l'a vu encore avec ce fourgon, ça fonctionnait très bien, on dirait bravo.
En plus,
ça ne fonctionne pas.
En même temps, ils ont assumé quand même des crises terribles. Le COVID.
Mais ils ne les ont pas assumés, ils les ont provoqués.
Non, le COVID,
ils l'ont géré n'importe comment. Moi, j'aime mon pays. Moi, je vais te dire, j'aime la France.
Le Covid a déstabilisé notre société.
Mais oui,
il a pas eu
le Covid. Le Covid, il a pas déstabilisé les autres sociétés européennes comme il a déstabilisé
tout le monde. Tout le monde a morflé.
Mais c'est incroyable.
Moi, je te dis juste une chose.
De mauvaise foi, vous êtes.
J'aime la France.
Très mauvaise foi.
Et si j'avais pu me tromper et que M. Macron avait réussi son projet, j'aurais été ravi de me dire que je m'étais
trompé. Mauvaise foi.
Non seulement je me suis pas trompé, mais j'étais même en dessous de la réalité.
Dès que tu voyages, tu t'aperçois que c'est pas du tout franco-français. C'est la même chose exactement ailleurs. Les Américains se barrent aujourd'hui. Ils se tirent tous des États-Unis. Ils sont aussi emmerdés dans la vie quotidienne. Mais je te promets que c'est vrai.
Mais je te promets
que c'est vrai.
Va en Espagne, ils vont très bien, les Espagnols.
Mais si, bien sûr. Le gouvernement socialiste.
Moins fort. Quelle mauvaise foi.
Je remercie Benoît.
À Barbara.
Allez-y, Benoît, oui.
Sur deux points déjà, Macron libéral, je vois pas où est-ce qu'elle a vu ça.
Oui, ça c'est vrai.
Parce que le président qui dépense le plus du monde dans le social, je vois pas où est le libéralisme.
Je pense aussi
que c'est ça un des gros problèmes du pays, c'est que les libéraux ne sont pas représentés dans ce pays.
Mm-hmm. Le libéralisme est devenu un tabou en France.
Oui, parce que quand j'entends que Macron est libéral alors qu'il est aussi libéral que moi je suis cégétiste, bon déjà ça pose un problème. Et deuxième point sur le Covid, elle disait emmerder les non-vaccinés, mais parce qu'il y en a qui chialaient pour qu'on emmerde les non-vaccinés. Ah là là, j'ai peur, lui il est pas vacciné, il va me contaminer, je vais mourir, me semble, il a entendu combien de fois.
Et donc, quel rapport avec le fait que Macron dise « je veux emmerder les non-vaccinés »
Mais parce qu'on a un peuple de chialeuses qui veut que l'État gère tout pour lui. Donc, il est obligé de se coucher devant cette minorité de chialeuses.
Donc, on a les politiques qu'on mérite.
Non, parce que je vais vous dire,
on a les politiques.
De Gaulle.
Et surtout, on a des politiques sans couilles.
De Gaulle, Pompidou, Mitterrand, Chirac, ils se seraient jamais rabaissés à dire « oh bah tiens, moi aussi, je vais y aller, je vais emmerder les Français ». Non,
c'était une autre époque. Combien de milliards ils ont dépensé pour avoir la paix sociale?
Mais oui,
à partir de Sarkozy, de toute façon, tout s'est cassé la binette.
Mais... Alors Benoît, on va continuer
de
discuter en allant en Corse avec Manu. Bonjour Manu.
Ouais, salut les grandes gueules, bonjour tout le monde.
Bienvenue Manu. Alors qu'est-ce que vous en dites, vous? Est-ce que...
Moi déjà, rien que la question, elle me gonfle.
Pourquoi?
Est-ce qu'on est trop sévère avec les politiques? Et en plus, on va culpabiliser de quelque chose. Non seulement ils sont pas foutus de faire le job comme il faut, mais en plus il va falloir qu'on se flagelle parce qu'on est méchant avec eux. Non mais vous déconnez ou quoi?
Vive la Corse.
Déconnez. On a un milliard, on a comment ça s'appelle, un ministre du budget qui nous sort qu'il faut 10 milliards. Une semaine après, il nous dit qu'il en faut 20. Après, il y a la Cour des comptes qui nous dit qu'il en faut 30. Je veux dire, on est un peu dans les écoles. Alors, moi, je vais contrarier notre ami du RAID, mais je veux dire... Mais enfin, il y a tout qui se casse la gueule dans ce pays. Les gamins, ils vont à l'école, ils se prennent de la flotte sur la gueule, ils se prennent des coups de couteau. Ça part en couille. Je suis monté à Paris la semaine dernière. J'ai fait le RRB, Gare du Nord, pour partir sur la mer en déplacement. Mais libérez-nous. Libérez-nous, on n'a plus besoin de vous, hein, sans déconner. Ça part en couille, votre pays. Hein.
Moi,
ça
m'intéresse. Manu, tu vas
vous n'avez pas aimé le RERB.
Je peux me réfugier en Corse, Manu, vous m'accordez l'asile politique.
Pas de soucis, mais bon, tu te calmes avec l'école aussi. Hein.
attendez, mon grand-père est corse, hein, donc.
Avoue, Manu, que l'État actuel a quand même fait beaucoup de choses depuis ce Covid qui a créé un désarroi total et qui a déstabilisé toute notre société. Il y a quand même beaucoup de milliards qui ont été injectés dans le social. On peut pas le. Non, mais ça te fait rire.
Mais non, mais ça me déconne. On est le pays qui est le plus prélevé. On se fait tondre.
Oui.
On nous dit tous les jours sur les plateaux télé, que ça soit à tel ou à l'autre, tout va bien, tout brille, tout est nickel. Mais on va rajouter un peu d'impôts. Ah, on va augmenter l'essence. Ah,
mais on a aidé les plus.
Ah, le truc.
Et on a redonné l'argent qu'on nous prend tous les jours.
On te dit que tout va bien, mais les gens, ils ont des problèmes pour bouffer. Ils ont des problèmes pour se loger. Ça ne fait que s'accentuer. Et on continue. Au moins qu'ils nous disent que c'est la merde, qu'on n'y arrive pas, que c'est compliqué, mais qu'ils soient honnêtes, qu'ils arrêtent au moins de nous prendre pour des cons.
Ça, c'est pas demain la veille, mais je crois qu'il n'y aura pas, et ça n'existera jamais.
C'est pas vrai, parce que quand Édouard Philippe, Édouard Philippe a dit qu'il ne savait pas, et finalement, ça ne l'a pas pénalisé.
Et quand Fillon a dit on est en ruine, le pays est ruiné.
Oui, un État en faillite.
Oui, mais
François Fillon avait aussi dit qu'il fallait disparaître le poste de Premier ministre, il y est resté 5 ans aussi.
Combien ils sont à bouffer tout cela comme ça? Sans déconner. Regarde un truc tout bête, regarde cette usine de désalinisation pour les Jeux Olympiques. Ils voulaient laver la Seine. Ça marche pas, leur machin. Ça coûte 1,7 milliard pour 4 bobos qui vont se faire dans la Seine.
Mais ça, c'est la